Radio Okapi.
Et voici la grande édition de la mi-journée présentée par Belinda Bosuma. Tout de suite, le sommaire. La taxe RAM est supprimée, mais seulement pour les appareils de la deuxième génération ou 2G. Décision annoncée hier par le porte-parole du gouvernement congolais à l'issue du Conseil des ministres dirigé par le président de la République. La MONUSCO invite les étudiants de l'Ituri notamment à ne pas céder aux rumeurs qui visent à discréditer l'action de l'ONU dans cette province meurtrie par des conflits armés. C'était lors d'une manifestation hier à Bunia à l'occasion de la célébration de la journée des Nations Unies. Et puis, l'invité de ce midi, André Biadounia, président de la nouvelle société civile du Congo, il nous parle de l'enquête qu'il vient de mener sur la présence des ressortissants tanzaniens engagés comme coupeurs de canne à sucre à la sucrerie du Kivu à Kiliba, dans le sud Kivu. Madame, Messieurs, bonjour. Suppression de la taxe RAM pour les appareils de la deuxième génération et signature de l'arrêté interministériel pour la reprise des pourparlers entre le gouvernement et l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST. Ce sont là deux des grandes mesures annoncées par le gouvernement à l'issue du Conseil des ministres d'hier, conseil dirigé par le président Félix-Antoine Tshisekedi par visioconférence. Je vous propose ici le compte-rendu de ce Conseil des ministres par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, dans cet extrait choisi par Paul Matendo.
Le Premier ministre a reçu les rapports détaillés de la question orale avec débat destinée au ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies au sujet des prélèvements sur le registre des appareils mobiles RAM. En attendant l'approfondissement de cette question en Conseil de ministres, le Premier ministre a décidé de la suppression de cette perception pour tous les téléphones de deuxième génération qui concernent 75% des abonnés. Quant à la situation qui prévaut dans les secteurs de l'éducation, le Premier ministre a informé le Conseil de la concrétisation de l'engagement de l'État par la signature d'un arrêté interministériel favorisant la reprise des négociations entre le gouvernement et les banques syndicales de l'enseignement primaire, secondaire et technique en vue de discuter sur les revendications des enseignants et permettre une reprise normale de cours dans tous les établissements scolaires.
Toutes nos excuses pour la qualité moins bonne de cet élément sonore. Rendons-nous au sud Kivu. Les membres de la société civile thématique mine saluent la démission de Safan Tobulongo, conseiller du gouverneur du sud Kivu en charge des mines et représentant du gouvernement provincial au comité de suivi des activités minières. L'ex-conseiller était un ancien activiste de la société civile sur les questions de bonne gouvernance dans le secteur minier. Sa démission intervient dans un climat politique tendu avec une actualité dominée par l'exploitation minière illégale par des expatriés dans plusieurs territoires de la province. Explication de Cynthia Bachizi.
Les raisons de cette démission ne sont pas clairement connues. Les proches de l'intéressé avancent des motifs de convenance personnelle, mais plusieurs sources au sein de la société civile évoquent des pressions que l'ex-conseiller aurait subies dans l'entourage du gouverneur de province, cela pour avoir notamment soutenu la décision de Théo Nkasingwabidje, gouverneur de province, de suspendre les activités de 6 sociétés minières accusées d'exploitation illégale de l'or dans le territoire de Mwenga. Maître Benjamin Bissimwa, acteur de la société civile thématique mine, précise que le combat pour la bonne gouvernance dans le secteur minier n'est pas perdu d'avance.
Nous ne pouvons pas parier que le combat pour la bonne gouvernance minière au niveau du Sud Kivu est perdu d'avance avec cette démission. Sinon, déjà au départ, quand il était nommé à ce poste, nous avions parié plutôt qu'il apporte des changements que nous avions toujours recommandé au gouvernement provincial d'appliquer. Il a fait les efforts qu'il pouvait, mais nous venons de constater que lorsque les choses ne vont pas, on est appelé à démissionner et le collègue Safanto a pris cette décision que nous avons saluée.
Notez que nous avons tenté en vain de joindre le cabinet du gouverneur de province pour plus de précisions. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Parlant des mines, sachez qu'en Ituri, les déplacés installés sur le site de Kogonze sont sensibilisés sur les risques des mines et engins explosifs. Depuis 3 mois, plus de 3800 personnes habitant sur ce site sont informées sur les conduites à tenir lorsqu'elles sont devant ces engins dits de la mort. C'est en prévision du retour dans leur village respectif. Hier, c'était des gestionnaires du site ainsi que des responsables de ces déplacés qui ont été sensibilisés. Pour le responsable local du groupe Action contre les mines pour le développement durable, qui mène la sensibilisation. Cette initiative va s'étendre aux écoles en vue d'atteindre une grande couche de la population. Le point avec Jean-Claude Loki.
Pour atteindre leurs objectifs, les sensibilisateurs utilisent des affiches pour montrer des signes, des sites, des objets ou encore des endroits suspects dont il ne faut pas s'approcher. Pour aujourd'hui, c'est une centaine de personnes, parmi lesquelles des femmes et des enfants, qui reçoivent un briefing sur l'attitude responsable à adopter face à des engins explosifs. À l'aide d'un mégaphone, l'équipe de sensibilisateurs attire l'attention de l'assistance sur les dangers qu'encourent ces personnes lorsqu'elles seront de retour dans leur village. Kassel Kamatina est coordonnateur de l'organisation qui mène cette campagne de sensibilisation.
Il y a des engins qu'on est en train de leur montrer qui semblent à d'autres matériels, par exemple l'ananas, grenade type chinois. Et vous trouvez ça dans leur champ pour dire que non, c'est un ananas alors que c'est une grenade qui peut tuer quelqu'un. Quand on les sensibilise, leur donne les numéros par lesquels ils peuvent appeler pour dire que non, il y a un engin, pour qu'ils puissent venir un peu voir ce dont
il s'agit. Il s'agit pour la plupart des zones où des miliciens, des groupes armés affrontent régulièrement les soldats des FARDC, principalement dans les territoires de Djougou, Irumu et Maagi. Pour Mathieu Zivévé, il est très important que ces déplacés reçoivent ces informations pour les mettre à l'abri du danger.
C'est très important parce que ça tue les gens. Il ne faut pas manipuler des engins pareils. Ça donne beaucoup de conséquences. Comme ça, il faut sensibiliser les enfants et les parents. Après la guerre, on trouve ça un peu partout. Qu'ils puissent être prudents.
Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
L'actualité, c'est aussi la tournée du secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, dans l'est du pays. Depuis hier, il est à Goma et doit se rendre à Beni, reçu avec la délégation qui l'accompagne par le gouverneur du Nord Kivu à son cabinet de travail. Le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations parle des résultats acquis dans la coopération agissante entre les FARDC et la MONUSCO dans les opérations sécuritaires de terrain. Cela, même s'il comprend aussi les préoccupations du Congolais moyen, dit-il, face à la situation sécuritaire du moment au Nord Kivu. On écoute Jean-Pierre Lacroix à sa sortie d'audience avec le général Constant Ndima, propos recueillis par Jules Ngala.
On a parlé et je vous suis reconnaissant de nous avoir exprimé de la gratitude à ce sujet. Il y a un soutien logistique, il y a un soutien en fuel, en déplacement, en transport, en ration lorsque les FARDC sont engagés, en soutien médical. Il y a aussi un soutien en opération, en action d'opération. Donc, il est, je pense, très important, ce soutien. Nous sommes, encore une fois, dans notre rôle de le faire, parce que nous sommes un partenariat. Il faut le dire, parce que trop souvent, on ne parle que des drames humains, des tueries, des ADF et autres. C'est normal, parce que c'est ça qui vous touche. Il faut aussi dire le travail, les résultats qui sont obtenus, la nature du travail commun, l'ampleur du soutien que nous apportons au FARDC, les résultats obtenus, la bonne synergie, la volonté commune de faire plus et de faire mieux.
Et puis, le conflit a cédé la place à la paix dans le Tanganyika. C'est l'avis du gouverneur intérimaire de cette province. Dieudonné Kamona pense que cette embellie est due à l'appui de l'ONU à la province. Pour lui, l'ennemi commun du Tanganyika à ce jour est la pauvreté. Après le départ de la MONUSCO, il sollicite encore l'intervention de la communauté internationale pour amener le Tanganyika à se développer. Est-ce opportun que la MONUSCO parte? Le gouvernement provincial n'a pas signé de contrat avec la MONUSCO. C'est un dossier du gouvernement central à répondu le gouverneur intérimaire. Nous y reviendrons. Province de la Tchopo, le commandant de la 31e région militaire s'engage dans la lutte contre la circulation des armes, toutes catégories confondues dans la ville de Kisangani. C'est dans ce cadre qu'il demande aux officiers détenant les armes de les remettre aux magasins d'armement de leurs unités respectives. Cette instruction du commandant région en place coïncide avec la dénonciation de la recrudescence de l'insécurité au chef-lieu de la province de la Tchopo, dénonciation faite par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité par intérim. C'était hier lors du Conseil provincial des ministres. Le compte-rendu de Jacques Moukonkolé.
Dans son communiqué publié vendredi, le commandant de la 31e région militaire s'adresse d'abord aux officiers et sous-officiers militaires qui détiendraient des armes. Il leur demande de les remettre au magasin d'armement. Néanmoins, cette mesure ne concernait pas les gardes du corps des ayants droit. Concernant les armes commises au service de garde et des piquets, le général de brigade Benjamin William Balengue Lakazadi précise qu'elles seront consignées sur place et feront l'objet de remises et reprises lors de la relève. Dans un deuxième temps, la mesure de remise d'armes à feu par ceux qui le détiennent concerne tous les civils, qu'il s'agisse d'une arme de guerre ou de fabrication artisanale. Elle doit être déposée à la direction du renseignement de la 31e région militaire. Tout contrevenant civil ou militaire s'expose à des poursuites judiciaires, souligne le commandant région. Cette mesure tombe au moment où le ministre provincial en charge de l'intérieur et sécurité dénonce la hausse de la criminalité dans la ville. Jean-Pierre L'ITEMA demande un peu plus de moyens pour faire face à cette situation. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans le territoire de Beni au nord Kivu, des morts s'est fait encore compter. C'est après une double attaque à Boulongo la nuit dernière. Nous sommes dans le secteur de Rwenzori. Si un calme précaire est observé dans la région, les autorités locales disent que l'armée patrouille la zone. Le récit de Marc Marofimbo.
La société civile locale parle de 4 civils tués hier soir lors de la double attaque des EDF dans les villages Mutilipi et Singipa près de la commune rurale de Boulongo dans les secteurs de Rwenzori. Cette source ajoute que ces civils ont été touchés par balles quand ils prenaient la fuite à la suite de la débandade et panique des coups de feu qui retentissaient dans ces localités lors de cette double attaque. D'autres sources indiquent que ces EDF ont tiré des coups de feu pour se créer un passage pour le parc national de Virunga en fuyant le feu leur allumé par les FARDC vers la partie ouest de Boulongo où l'armée a lancé des offensives contre tous les groupes armés actifs dans la région. Pour le moment, le calme est revenu sur place à Boulongo et l'armée patrouille dans la région. Signalons également que dans cette même zone, le bilan de l'attaque de Kalembo dans la nuit du mercredi au jeudi dernier vient de s'alourdir. La société civile parle de 2 autres corps retrouvés ce matin, faisant ainsi 22 civils tués lors de cette attaque. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Célébration hier de la journée des Nations Unies en Ituri. La cérémonie officielle a eu lieu à l'université de Bunia, une occasion pour la MONUSCO et d'autres agences du système des Nations Unies de rencontrer les étudiants de cette institution universitaire. Plusieurs centaines d'étudiants ont été informés des réalisations des Nations Unies en Ituri ainsi que des défis auxquels la MONUSCO est confrontée dans le cadre de la protection des civils et de l'assistance aux personnes vulnérables. Occasion donc pour la MONUSCO d'éveiller la conscience des étudiants à ne pas céder aux rumeurs qui n'ont que pour objectif, selon la chef du bureau adjoint de la MONUSCO en Ituri, de discréditer l'action de l'ONU dans cette province meurtrie par des conflits armés. Reportage de Jean-Claude Lokidile.
C'est dans la salle des conférences de cette institution universitaire publique qu'étudiants, enseignants d'un côté et responsables de la MONUSCO et des agences du système des Nations Unies de l'autre, se sont donné rendez-vous pour cette activité au menu des échanges, des présentations sur l'ONU, ses origines, ses missions ou encore sa structure. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a aussi ouvert un stand où les visiteurs ont pu apprécier le travail que fait cette agence de l'ONU dont le rôle est de lutter contre l'insécurité alimentaire. De son côté, la MONUSCO a présenté une exposition photo qui reprend les principales actions de son appui aux autorités congolaises. Théona William, chef de bureau adjointe de la MONUSCO en Ituri, a de l'occasion d'inviter les étudiants à rompre avec la culture des rumeurs qui ne facilite pas la compréhension de l'action des Nations Unies. Elle leur a enfin demandé de s'impliquer plus que jamais dans la recherche des solutions pour le retour d'une paix durable en Ituri. Le secrétaire général académique de l'UNIBU et le représentant du maire de la ville de Bunia ont salué le travail des Nations Unies, en Ituri en particulier et en RDC en général. Le secrétaire général académique de cette institution universitaire a surtout formé le vœu que ce genre d'activité de sensibilisation ait régulièrement lieu pour permettre aux étudiants d'accroître leurs connaissances sur les Nations Unies, ce qui leur évitera de faire des amalgames. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Actualité internationale. Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies doit atterrir cet après-midi à Bamako, au Mali. Une visite officielle de 2 jours qui s'inscrit dans le cadre des consultations régulières entre le gouvernement malien et l'ONU, ce depuis la création de la MINUSMA en 2013. Mais cette visite survient dans un contexte très tendu, Bamako croisant le fer avec ses partenaires internationaux sur l'éventualité d'un contrat avec les mercenaires russes du groupe Wagner et surtout sur un éventuel allongement de la période de transition. Les autorités s'y sont engagées sur une période de 18 mois, mais envisagent à présent de repousser l'échéance prévue. Madagascar, la proposition de loi sur la légalisation de l'interruption thérapeutique de grossesse, pas encore discutée au Parlement, fait déjà débat dans les médias et sur les réseaux sociaux malgaches. L'objectif de cette loi est d'autoriser l'arrêt d'une grossesse en cas de mise en danger de la vie de la mère, de fœtus non viable, d'inceste ou des viols. Des images montrant un fœtus, des instruments de curetage avec le slogan « Non à l'avortement, quelle que soit sa forme », publiées sur Facebook par une députée d'Antananarivo opposée à cette proposition, ont fait réagir de nombreux internautes. Si certains la soutiennent, de nombreux autres dénoncent une position extrême et se déclarent en faveur de l'interruption thérapeutique de grossesse.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons André Biadounia, président de la Nouvelle Société Civile du Congo. Il a enquêté sur la présence des ressortissants tanzaniens engagés comme coupeurs de canne à sucre à la sucrerie du Kivu à Kiliba, dans le sud Kivu. Il s'entretient à ce sujet avec Fiston Ngoma Mayabala.
André Biadounia, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'effectuer une mission à Kiliba, Ondes. Quel a été d'abord l'objectif de votre mission à Kiliba, Ondes, sucrerie?
La sucrerie a recruté des gens venus de Zimbabwe et de la Tanzanie, mais aussi du Burundi. Et qu'ils seraient des mèches avec les Gumino dans les moyens hauts plateaux. Voilà, ils nous ont même dit que non, tel jour Uvira va tomber parce que ces gens qui sont à la sucrerie vont accueillir les autres Gumino, tout ça.
Quelle est la réalité sur le terrain?
Nous sommes descendus sur les lieux, on a rencontré les responsables de la sucrerie. Ils nous ont réellement accepté qu'ils ont des gens là-bas, mais pas des Zimbabwe, mais des Tanzaniens. Ils sont 100. Nous sommes descendus jusqu'au secteur 6, nous les avons rencontrés là-bas et ils nous ont dit qu'ils sont là pour les activités de coupe des cannes à sucre.
Vous les avez rencontrés, vous êtes entretenus avec ces personnes?
Oui, nous les avons rencontrés, nous avons même pris des photos, nous sommes même partis dans les champs, on les a rencontrés en pleine activité, mais nous avons été surpris parce que ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux n'a pas été vraiment ce que nous avons rencontré parce que on disait qu'il n'y avait pas les services de sécurité, mais on a rencontré au moins les FRDC sur place. On a rencontré que ce sont les femmes congolaises qui préparent pour se couper des cannes à sucre. Mais aussi on a rencontré un président de jeunes, en même temps infirmier du centre hospitalier de Kiliba, détaché sur les lieux pour aller soigner, se couper des routes qui peuvent soit tomber malades ou soit très très blessés pendant...
Au secteur 6.
À 6 km de Kabulimbo, mais à 2,5 km de l'usine des cannes à sucre. Nous avons essayé de poser la question aux responsables de la sucrerie, pourquoi recruter les gens qui viennent d'ailleurs? Ils nous ont dit oui, c'est simplement parce que les Congolais ne veulent pas travailler, parce qu'ils disent que le salaire ou la prime est très dérisoire. Et nous aussi on a constaté cela, parce qu'on ne peut pas donner à un Congolais ou à quelqu'un qui va passer la journée de 7h à 18h et qu'on lui remette 4300 francs congolais, c'est vraiment insignifiant.
Mais les ressortissants tanzaniens ont accepté les conditions?
Les ressortissants tanzaniens, selon les responsables de la SICI, nous ont dit qu'ils ne sont pas concernés par la prime locale au niveau de la sucrerie, mais ils sont payés par l'usine de Kagera, parce que l'usine de Kagera, c'est une usine sœur, gérée par les responsables de la sucrerie de Kivu. Kagera, c'est en Tanzanie, ça veut dire que les responsables de la SICI de Kiliba, de Kivu, c'est lui encore le responsable de la sucrerie de Kagera en Tanzanie. C'est comme ça qu'il s'est rendu compte qu'au lieu de perdre le temps, parce qu'il a dit qu'il les a amenés pour des raisons. La première, c'est que il y avait déjà les cannes à sucre qui étaient à maturité, qui étaient déjà prêtes. Mais malheureusement, il n'y avait pas...
Pour la coupe.
Il n'y avait pas de coupeurs pour le faire.
Et la campagne sucrière traînait.
La campagne traînait déjà et qu'il faudra qu'on produise pour que la sucrerie démarre. C'est comme ça qu'il s'est dit, on doit amener nos coupeurs de cannes à sucre qui sont dans notre usine là-bas. Mais ils sont pris en charge par la sucrerie de Kagera en Tanzanie et non par la sucrerie de Kivu.
À un moment donné, il y avait des manifestations à Kiliba, qu'il y avait importation de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, vous êtes devant un fait accompli avec la jeunesse de Kiliba.
Oui, effectivement, nous sommes entretenus avec certains jeunes de Kiliba. Nous avons été avec eux, parce que nous sommes descendus sur les lieux. Mais aussi, il faudra vous dire que les salaires, la prime est dérisoire. C'est pour cela que les jeunes nous ont dit qu'ils ne peuvent pas travailler sur base de 4300 francs congolais, parce que c'est insignifiant, ça ne peut pas couvrir. Mais aussi, pour avoir ces 4300 francs congolais, vous devez attendre 2-3 mois après pour que vous soyez payé. Mais lorsqu'on a posé la question aux amis de la sucrerie, ils nous ont dit que c'est vrai, c'est dit à la non-production par la sucrerie du Kivu. Parce que ceux qui supportent la charge de la sucrerie du Kivu, ça vient des autres usines dont les propriétaires de la Suki Kivu est responsable ailleurs, soit à Kagera et dans d'autres pays. Voilà, c'est pourquoi ils ont recouru à cette main-d'œuvre-là. Mais pour nous, nous nous sommes rendus compte que c'est une faiblesse de la part de l'État congolais. Parce que l'État congolais est actionnaire dans la sucrerie du Kivu. C'est l'État qui devait tout arranger. En termes des SMIG, l'État devait dire pour la RDC, le SMIG, c'est 5$. Et les jeunes, pendant notre entretien, nous ont dit que si la sucrerie acceptait de payer 5$ par jour, ils sont prêts pour travailler. La main-d'œuvre est là. Et nous aussi, on a encouragé à ce que la sucrerie puisse utiliser la main-d'œuvre. Nous avons même recommandé que ce soit la dernière fois. Il faut qu'on recrute les gens localement parce qu'ils ont déjà commencé à produire et qu'avec cette production-là, ils peuvent supporter les charges pour les travailleurs recrutés localement.
Voilà, c'était là notre invité, le président de la nouvelle société civile du Congo, André Biadounia. Il s'entretenait avec Fiston Ngoma. C'est la fin de ce journal coordonné par Richard Junior Kamunga sous la supervision de Ben Kabamba. À la technique, Sylvain Matundu et devant ce micro, Belinda Bosuma. Retrouvez ce journal sur notre site www.radiokapi.net. Merci.